France Culture.
C'est l'heure du journal de la rédaction, journal présenté par Julie Paco. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous. Des gendarmes français se sont-ils affranchis du droit international sur la mer? Question posée après des images montrant des forces de l'ordre lacérer un bateau de migrants à l'eau, à Boulogne-sur-Mer. Les associations dénoncent le durcissement des pratiques des autorités françaises, durcissement salué outre-Manche par Downing Street. Quelques 800 personnes rassemblées dès ce matin dans le Tarn, à quelques heures d'une nouvelle mobilisation d'envergure contre le projet d'autoroute A69. Manifestation interdite par la préfecture qui redoute des affrontements avec les forces de l'ordre. Des inondations font au moins une vingtaine de morts au Texas suite à la crue soudaine du fleuve San Antonio. Les autorités continuent leur recherche pour retrouver les disparus, parmi lesquels de nombreux enfants. Enfin, la répression de l'opposition se poursuit en Turquie. 3 maires membres du Parti républicain du peuple ont été arrêtés ce matin dans le cadre d'une enquête sur des allégations de corruption ayant entraîné l'arrestation de 120 personnes en début de semaine. Des gendarmes filmés en train de lacérer un bateau pneumatique de migrants dans la Manche. Les images filmées sur une plage du sud de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais ont été révélées hier par la BBC lors d'une séquence parfaitement orchestrée, dénoncent les associations d'aide aux exilés. Bonjour Adrien Toffolet.
Bonjour.
Une opération qui interroge en tout cas sur sa légitimité.
Oui, sur les images, on voit d'abord l'équipe de la BBC accompagner ces hommes et ces femmes, près d'une centaine de candidats à l'exil, qui s'élancent depuis la plage vers un canot pneumatique et commencent à monter dessus. Une autre équipe à terre filme les gendarmes français sur la plage au moment où ils s'apprêtent à intervenir vers l'embarcation.
The police have come in to slice the boat. Look at that guy's fumes.
La police est arrivée pour lacérer le bateau, explique le journaliste, pendant qu'un exilé crie « Why, pourquoi ?» En quelques coups de cutter, l'embarcation se dégonfle, forçant les migrants, près d'une centaine de personnes, à revenir vers la plage avant de s'enfuir vers les dunes. Alors, les gendarmes ont-ils tenté d'empêcher les candidats à l'asile britannique de prendre la mer? Le droit international maritime l'interdit. Dès lors qu'un bateau a quitté la terre ferme, seul le sauvetage est autorisé. À la BBC, les gendarmes ont assuré ne pas avoir modifié leurs pratiques. La préfecture du Nord justifie cette intervention par le fait que les gendarmes auraient détecté un danger immédiat pour les passagers, à savoir des migrants qui auraient tenté de monter à l'arrière du bateau, très fragile. L'opération visait donc à protéger les exilés. Un événement qui n'est pas totalement inédit toutefois, puisque le mois dernier, la défenseur des droits a reçu un signalement d'association d'aide aux migrants suite à une intervention sur une embarcation au niveau d'une plage de Gravelines. Les gendarmes tirant cette fois des gaz lacrymogènes. En février dernier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ne cachait pas son intention de changer de doctrine pour permettre les interceptions en eau peu profonde.
Et de son côté, le gouvernement britannique se félicite du durcissement des pratiques des forces de l'ordre françaises pour intercepter les migrants tentant de rejoindre l'Angleterre. Un durcissement constaté et déploré par Yann Manzi, il est délégué général de l'association Utopia 56.
Oui, il y a un durcissement depuis longtemps, on le dénonce, il prend forme sur l'augmentation des moyens financiers alloués à l'empêchement et à l'entrave de ces populations de continuer leur route migratoire. C'est des moyens financiers énormes, c'est des drones, c'est des policiers qui vont entraver sur les plages. Les images qu'on a vues ces derniers jours et dont l'Angleterre se félicite, c'est ni plus ni moins que la fin des droits maritimes. Aujourd'hui, on voit ces pratiques policières avec la police dans l'eau qui va soi-disant sauver des vies en crevant des bateaux. N'oublions pas que depuis que justement cette intensification de l'entrave au passage est en place, eh ben on voit le nombre de morts augmenter avec une réalité en face, c'est que tout le monde passe. Donc oui, c'est sacrément violent sur les plages. De l'entrave, du gaz lacrymogène, des policiers avec des matraques en tenue de combat pour pouvoir simplement imaginer couper ou entraver la route de l'exil en sachant que le résultat est nul. Par contre, ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est que c'est une belle opération de communication ou plutôt de propagande pour préparer l'opinion publique à éventuellement essayer de changer le droit international maritime. Et ça, c'est un drame. Depuis 10 ans qu'Utopia 56 existe sur le terrain, on voit, nous, les droits fondamentaux fondre dans cette France et cette Europe pour ces populations exilées. Mais n'oublions pas une chose, c'est que ces droits, ces populations exilées que nous détruisons, ce droit international que nous détruisons, nous le détruisons pour nous aussi.
Dossier signé Adrien Toffolet pour France Culture et la question migratoire, sujet épineux dans les relations franco-britanniques, sera évidemment abordé lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni qui débute mardi. Malgré l'interdiction de la préfecture, la Turbo Teuf aura bien lieu, du nom d'un nouveau rassemblement organisé aujourd'hui par les opposants à l'autoroute A69 dans le Tarn. Quatrième grand week-end d'action contre ce projet autoroutier devant relier Castres à Toulouse. Bonjour Guillaume Fariol.
Bonjour.
Vous êtes sur le domaine du château de Scopon où sont déjà rassemblés plusieurs centaines de manifestants.
Oui, 800 manifestants à 8h du matin selon le dernier décompte de la préfecture. Ils seront 2000 au moins d'après les estimations en début d'après-midi, 14h pour le rassemblement fixé ici sur le domaine privé de ce château dans la campagne tarnaise. Le chantier de l'autoroute est à une centaine de mètres seulement, sécurisé par de très nombreux policiers et gendarmes. 1500 au total mobilisés ce week-end selon la préfecture qui redoute des violences. Amalia est militante d'Extinction Rébellion à Toulouse.
S'il faut aller au-delà de la loi, on le fera. S'il faut pour cela cramer des machines, alors on cramera des machines. S'il faut bloquer une route, on le fera. Parce qu'il est absolument nécessaire pour la survie de tous de bloquer tous les projets comme l'autoroute, inutile et écocidaire.
Des critiques contre la 69 partagées par Martin qui habite la région.
Le projet d'autoroute A69, il est inutile. Parce que la RN126 n'est pas saturée et que Castres n'est pas enclavée. Parce que personne n'aurait les moyens de payer 20 euros pour un aller-retour à Toulouse. Et il est écocidaire parce qu'il artificialise 400 hectares de terre.
Des manifestants qui dénoncent l'interdiction de ce rassemblement, la plupart assurent qu'il n'est pas question de violence, comme le disent les autorités. Daniel Coutarel de la Confédération Paysanne du Tarn.
Des mensonges qui font que les gens aujourd'hui ne viennent pas à un rassemblement festif parce qu'on a dit que ce serait violent. Alors que notre intention est plutôt sur un moment d'échange entre citoyens.
Nous avons tout de même, il faut bien le dire, un croisé de nombreux militants cagoulés, même si ce n'est pas la majorité des personnes rassemblées ici.
Guillaume Fariol en direct du Tarn pour cette nouvelle mobilisation contre l'autoroute A69 avec les moyens techniques de Florent Layani. Plus d'un siècle après son interdiction, les Parisiens peuvent de nouveau se baigner dans la Seine. Trois sites de baignade sont ouverts depuis ce matin, après plusieurs années d'investissements coûteux pour améliorer le réseau d'assainissement en amont du fleuve. Et cette reconquête de la baignade, une pratique vieille de 4 siècles, pourrait bien paraître anecdotique, mais en réalité, elle traduit une réappropriation progressive du fleuve par ses riverains et plus largement de l'espace public par les citoyens. Détaille Raphaël Morera, directeur de recherche au CNRS et historien spécialiste de la gestion de l'eau à l'époque moderne.
La Seine a longtemps pourvu Paris en eau et cette relation s'est distendue au fil de la croissance industrielle et de l'intensification des usages. À la fin du 19e siècle notamment, c'est une croissance de la navigation et puis une eau dont la qualité aussi était sujette à caution. Donc la baignade est devenue de plus en plus dangereuse. En réalité, si on peut se baigner, ça veut dire qu'il y a une biodiversité qui peut revenir. Voilà, ça s'accompagne de beaucoup d'évolutions qui sont très très importantes. Ça veut dire aussi énormément de choses sur la ville elle-même, sur la vie de la ville, et ça permet de retisser des liens, de retourner à ce qu'était la ville, de retrouver une partie réelle de la ville. Maintenant, on a un fleuve qui n'a quasiment plus rien de naturel. Mais avec la baignade, on dit aux citoyens, on dit aux citadins, vous avez un bout de nature au milieu de vous, quoi. Et donc, c'est un geste très, très fort, qui fait beaucoup de bien, je pense, aux urbains. Il y a une dimension politique et populaire. C'est une nouvelle manière de penser la ville. Ça aboutit à un changement de regard sur ce qui nous entoure, sur ce qui nous rend urbains, quoi.
Raphaël Morera, directeur de recherche au CNRS, au micro d'Éléonore Claude pour France Culture. De l'eau et des pluies diluviennes qui ont fait au moins 24 morts, dont des enfants lors d'inondations au Texas. Le fleuve Guadalupe au nord-ouest de San Antonio a soudainement débordé hier et le bilan pourrait bien s'alourdir car plusieurs dizaines de personnes restent portées disparues et notamment, Jera Mohamed, de jeunes enfants qui participaient à un camp d'été sur les rives du fleuve.
Sur les 750 enfants qui participaient à ce camp d'été, une vingtaine sont portés disparus, essentiellement des fillettes. Certaines ont pu se réfugier, d'autres sont peut-être sans moyen de communication, a tenté de rassurer hier le shérif du comté de Kerr. Mais ce que redoutent aussi les secours, c'est que ces campeuses aient été emportées par cette brusque montée des eaux dans cette région pourtant habituée à ce genre de phénomène. C'est la vallée fluviale la plus dangereuse des États-Unis, rappelle un responsable local. Sauf que cette fois-ci, Tout est allé très vite. Le niveau du Guadalupe, ce fleuve qui traverse le Texas, est monté pendant la nuit de jeudi à vendredi d'environ 8 mètres en 45 minutes. Sur les réseaux sociaux, on voit des vidéos avec des maisons et des arbres emportés par la crue.
Wow, this is crazy.
Les familles des jeunes filles publient des appels à l'aide avec photos de leurs enfants disparus et numéros de téléphone à contacter. D'autres précipitations sont annoncées dans les prochaines heures, toujours dans la zone de Kerr, mais aussi de San Antonio et d'Austin. Le shérif du comté prévient, il y aura probablement davantage de victimes lorsque tout cela sera terminé.
Gérard Mohamed aux États-Unis pour France Culture. Donald Trump se dit sous le choc face à ces terribles inondations. Quelques heures donc. Après avoir promulgué ce qu'il appelle sa grande et belle loi budgétaire lors de la fête nationale américaine, une loi tentaculaire qui prévoit notamment l'arrêt des subventions aux énergies renouvelables tout en continuant ses coupes dans les agences fédérales, donc chargées de combattre les catastrophes climatiques. Le président américain qui estime qu'il pourrait y avoir un accord de trêve à Gaza la semaine prochaine, se disant donc très optimiste quant à un accord de cessez-le-feu. Il doit accueillir lundi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche, alors que le Hamas s'est dit hier soir prêt à engager immédiatement des négociations pour la mise en œuvre d'un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne, où la défense civile fait état de 20 morts aujourd'hui lors de frappes israéliennes. Trois maires du principal parti d'opposition en Turquie arrêtés par la police dans le cadre d'une enquête sur des accusations de crimes organisés. Enquête ayant abouti en mars dernier à l'arrestation du maire d'Istanbul, Ikrem İmamoğlu, plus important rival de Recep Tayyip Erdogan, déclenchant alors des manifestations massives en Turquie, on s'en souvient. Et ces nouvelles arrestations d'élus du Parti républicain du peuple sont perçues comme une opération politique par les opposants au pouvoir, Mathilde Varda.
Il est désormais presque commun de se réveiller en Turquie en découvrant la liste des membres de l'opposition arrêtés le matin même. Au moins 10 personnes ont été placées en garde à vue aujourd'hui. Parmi elles, les maires d'Antalya, Adana et Adıyaman, trois villes du sud du pays. Ce sont toutes des mairies dirigées par le principal parti d'opposition, le CHP. Ils sont accusés de corruption ou de crimes organisés. Parmi les arrestations de ce matin, il y a aussi le maire adjoint d'un arrondissement d'Istanbul qui remplaçait le maire lui-même en détention depuis fin mai. Ces arrestations s'ajoutent à un gros coup de filet plus tôt cette semaine à Izmir, troisième ville du pays et bastion de l'opposition. Plus de 120 personnes ont été placées en garde à vue, elles aussi accusées de corruption. Le CHP fait face à une montagne d'enquêtes qui vise même jusqu'à la tête du parti. La justice l'accuse notamment de fraude lors de son dernier congrès en 2023, une affaire qui pourrait mener à la destitution du chef de file de l'opposition, Özgür Özel. Fin juin, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déclaré en évoquant l'opposition, je cite, que la situation est désastreuse non seulement à Istanbul, mais aussi dans d'autres provinces. Cette déclaration résonne aujourd'hui comme une mise en garde. Après avoir mené 5 vagues d'arrestations à Istanbul depuis mars, le pouvoir étend donc la répression aux mairies du reste du pays.
La correspondance de Mathilde Varda à Istanbul. Après 14 ans de règne des conservateurs au Royaume-Uni et un bilan marqué par une cure d'austérité, un Brexit et de nombreux scandales, eh bien, les Britanniques ont porté le parti travailliste au pouvoir il y a tout juste un an. Keir Starmer, entré à Downing Street, fort d'une majorité solide au Parlement. Et pourtant, 365 jours plus tard, eh bien, le quotidien des Britanniques n'a pas forcément beaucoup changé. Et le Premier ministre se trouve dans une position affaiblie au sein même de son parti. Bilan d'un an de pouvoir avec Emeline Vin.
Guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, réchauffement de la relation avec l'Union européenne. À l'international, la première année de Keir Starmer à Downing Street a été chargée. Mais sur le plan domestique,
ça a été vraiment désastreux.
Tim Bale, professeur de sciences politiques à l'université Queen Mary.
Aucun gouvernement n'était tombé aussi bas, aussi vite depuis le début des années 90. Déjà, Keir Starmer lui-même est assez impopulaire depuis le début et son gouvernement n'est crédité que de 20% de satisfaction.
Menacé sur sa droite, le gouvernement a durci ses politiques migratoires et sociales. Alors, l'aile gauche de la majorité proteste et l'exécutif multiplie les volte-face.
Il a perdu presque toute autorité. Si le gouvernement ne se dépêche pas pour agir contre la pauvreté, par exemple, il risque d'être en danger. Keir Starmer n'en est pas là, mais une fois que les députés ont commencé à se rebeller, ça devient compliqué.
Pour autant, aucun remplaçant crédible n'émerge et Karl Pike, politologue, souligne quelques succès.
Le budget de la santé a été fortement augmenté. Et sur le plan économique, nous sommes revenus à une politique stable et lisible.
Un sujet sur lequel le gouvernement fait la quasi-unanimité, la transition énergétique et la création d'un fournisseur national d'énergie verte.
La météo avec un samedi après-midi nuageux au nord du pays, près de la Manche et sur le nord des Hauts-de-France. Le ciel va se charger. Dans les prochaines heures, quelques ondées sont attendues en bord de mer. Des averses orageuses sont attendues sur les Alpes du Sud et sur la Corse, ainsi que sur les Pyrénées. Les nuages d'altitude se propageront au golfe du Lion. Ailleurs, et bien sur la moitié sud, le soleil s'impose et les températures restent caniculaires, où 33 à 39 degrés sont attendus cet après-midi. Comptez en revanche 23 à 31 degrés sur la moitié nord. C'est la fin de ce journal, préparé ce midi avec Alix Forgeot.